Pierre Bayet, bonjour.
Bonjour.
Kinshasa va accueillir le sommet de la francophonie en 2012. Et avant ce sommet, il y aura sûrement l'Assemblée générale de maires francophones. Est-ce que vous sentez que Kinshasa est prêt?
Alors, Kinshasa est prêt parce que le gouverneur est extrêmement volontaire et dynamique. Je vous explique, c'est que d'abord, M. Kimbuta est membre du conseil d'administration. Il est membre du conseil d'administration et en plus, il est président d'une commission permanente sur le dialogue interculturel. Donc, déjà, il va tisser des liens, il va nouer des relations avec l'ensemble de ses collègues pour faire en sorte que notre Assemblée générale ici dans 2 ans soit un moment important. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours voulu que l'association des maires se retrouve en parallèle à la réunion des chefs d'État. Il faut bien montrer que ces élus du peuple ont quelque chose à dire aux chefs d'État quand ils se réunissent. Il faut qu'ils leur expriment leurs préoccupations pour qu'elles soient prises en compte. Et le sommet des chefs d'État est un bon moment pour faire savoir que dans les villes, il y a des difficultés.
Alors, sur le plan accueil, infrastructure, vous ajouteriez quoi à cette ville de Kinshasa pour préparer ce sommet?
Mais pour ce qui concerne l'Assemblée générale de l'IMF, j'ai été très agréablement surpris de l'état de développement du réseau routier. Donc, je vois que des choses sont en train d'évoluer, donc nous n'aurons aucun problème pour accueillir nos maires. Deuxième facteur qui me rassure, c'est le patrimoine hôtelier. Il y a suffisamment il va y en avoir même d'autres grands hôtels qui seront là pour nous accueillir. Donc, de ce côté-là, je ne fais pas de soucis. Et la troisième raison qui me rassure, c'est que M. Kimbuta, en tant que président de commission permanente, aura en tout cas les moyens de favoriser la réflexion des maires sur un certain nombre de projets essentiels.
Il y a un point sur lequel se concentre l'IMF, c'est par exemple le problème d'aménagement d'eau dans les villes francophones. Kananga, Lubumbashi, Kinshasa, Bandundu, des sérieux problèmes d'eau. Quelle stratégie vous proposez-vous?
Alors, effectivement, nous investissons 2 millions d'euros par an en branchement d'eau et d'assainissement dans l'ensemble de notre réseau. C'est-à-dire que nous utilisons cette somme comme effet levier pour essayer de trouver plus de capitaux, par exemple, auprès de l'Union européenne ou d'autres bailleurs. Donc, c'est véritablement une problématique. Il ne peut y avoir de société libre que si les populations ont accès à ce bien essentiel qu'est l'eau, mais aussi à ce service essentiel qu'est l'assainissement. Donc, nous intervenons partout. Mais pour réaliser nos projets, il faut qu'il y ait une volonté politique locale. C'est-à-dire, il faut que les maires et mairesse s'investissent, soient véritablement maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'ils conduisent ces opérations.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais concrètement, l'eau et l'assainissement se diffuseront bien dans les collectivités territoriales que si ce sont les villes qui conduisent ces projets, et non pas des ONG. C'est-à-dire, si le maire comprend, là aussi, que pour asseoir son autorité, pour qu'il soit reconnu par les populations locales, il faut que ce soit lui qui conduise ce type de projet.
Et quand vous rencontrez les maires ici en RDC, est-ce que vous leur dites ça?
Oui, je leur dis d'autant plus facilement que nous votons des projets pour un certain nombre de villes, que ces projets sont mal conduits et donc nous n'avançons pas, nous bloquons. Nous ne sommes pas là pour favoriser les ONG, mais nous sommes là pour faire en sorte que les élus locaux acquièrent plus de reconnaissance, plus de savoir-faire à travers ces projets. Ces projets sont un moyen pour eux de se faire valoir auprès de leur population et auprès des autres bailleurs de fonds. Et puis, sur l'ensemble du territoire, nous avons un projet de modernisation des services d'état civil.
Vous faites des efforts, mais le fait que le personnel ne soit pas payé, est-ce que ça n'anéantit pas vos efforts sur l'état civil?
L'état civil, ce n'est pas un problème uniquement de personnel. C'est un état d'esprit. C'est un phénomène de société. Est-ce qu'on reconnaît que la reconnaissance des individus est essentielle dans les droits des citoyens? Pour nous, c'est acquis, mais il faut que cela soit acquis dans la société congolaise. C'est pour ça qu'il y a deux manières d'aborder le problème d'état civil. Soit à la base, en modernisant les services municipaux, ce que nous avons commencé à faire, Kinshasa et Lubumbashi, mais pas uniquement. Mais il y a une autre manière de procéder, c'est par en haut. Les vice-premiers ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, c'est-à-dire faire évoluer la législation pour qu'elle soit en accord avec l'évolution de la société congolaise. C'est ce que je suis venu dire à M. le ministre de la Justice et à M. le ministre de l'Intérieur. Donc on va rentrer dans ce processus au niveau national, faire évoluer la législation, créer ou en tout cas renforcer un service central d'état civil pour diffuser cette manière d'être. Et en même temps, en parallèle, on modernisera aussi les services locaux pour qu'il y ait une bonne cohérence entre tout cela.
Alors parlons de la décentralisation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous prenez un peu la part du gouvernement congolais qui devrait faire aboutir ce processus depuis 3 ans?
Bon, alors d'abord, l'accompagnement du processus de décentralisation, nous le faisons avec l'Université de Liège et c'est un projet de plus. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que ceci ne se fait pas en un jour. C'est un travail en réseau. Et ce que j'ai dit aux coordonnateurs de la décentralisation, il y a dans la sous-région d'autres pays qui sont au même niveau que la RDC, et ce que je lui propose, c'est qu'ils se mettent en lien avec nos amis, de, par exemple, du Cameroun ou de République centrafricaine, pour voir comment ils pratiquent, pour échanger leur savoir-faire, pour que ces pays bénéficient de la manière de faire de RDC. Et puis, il faut qu'ils aillent aussi côté malien, qu'ils prennent en compte toutes les erreurs qui ont été commises ailleurs. Donc, je considère que ce n'est pas une difficulté. On est rentré dans un processus. La démocratie locale et la décentralisation ne se font pas en un jour. Dans les pays européens, il a fallu des siècles pour le faire. Et ce n'est pas en 3 ou 4 ans qu'on le fera. Et je sais qu'on ne peut pas aller plus vite que la volonté des populations.
Pierre Baillet, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci à vous, bon courage.